VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Ouagadougou, 13h à Libreville, bienvenue à notre journal. Au Cameroun, le gouvernement annonce avoir déboursé 12 millions de dollars pour satisfaire les revendications des militaires camerounais de retour de Centrafrique qui ont manifesté hier devant le quartier général de l'armée et l'Assemblée nationale à Yaoundé pour réclamer le paiement de 12 mois de solde. Les militaires en question avaient défilé dans la capitale en tenue de casque bleu et ils n'avaient arrêté leur manifestation qu'après une promesse de paiement faite en personne par le ministre de la Défense, Edgar Alain Mébé Ngo. Le pape François se rendra fin novembre en Centrafrique. C'est ce qu'annonce l'AFP en précisant que le souverain pontife visitera également le Kenya et l'Ouganda pendant cette prochaine tournée sur le continent africain. En RCA même, la mission de l'ONU MINUSCA condamne la série d'attaques à la grenade menée par des inconnus armés à Bangui qui a fait plusieurs morts et blessés hier soir. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
Il est 19h local lorsque les assaillants en tenue militaire, dont l'identité n'est pas encore connue, ont largué la première grenade devant le marché de Pétévo. Selon un haut responsable de la police, 4 personnes ont perdu la vie sur place et plus d'une dizaine d'autres blessés. Toujours selon la police, les mêmes personnes ont largué une seconde grenade dans un bar dancing. Ici, on compte 2 morts et des blessés. La troisième explosion, enfin, s'est produite à quelques mètres de là, précisément à Kitengere, où les 3 hommes à moto ont encore fait des victimes. Pour l'instant, l'attaque n'est pas encore revendiquée. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Des enquêtes sont en cours pour identifier les auteurs de ces crimes afin qu'ils répondent de leur forfait devant la justice centrafricaine, précise le communiqué de la MINUSCA. RCA toujours, le gouvernement centrafricain cherche à redynamiser l'économie nationale par le biais du secteur privé, d'où le forum sur la promotion du secteur privé en cours depuis hier dans la capitale. De nouveau, notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Les autorités de la transition veulent à travers cette rencontre identifier les principales contraintes du développement de l'économie nationale et mettre en place des dispositifs pour son épanouissement. La présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, présente à la cérémonie d'ouverture, a indiqué que ce forum doit jeter les bases solides pour le développement économique de la République centrafricaine.
Ce forum doit forger une nouvelle dynamique, favorisant une synergie agissante entre le secteur privé et l'administration, afin de jeter les bases d'une reconstruction économique du pays qui restitue au secteur privé le rôle moteur de levier indispensable de la croissance économique.
3 secteurs sont donc ciblés par les participants qui sont des opérateurs économiques centrafricains et internationaux. Il s'agit de l'agriculture, des forêts et du sous-sol. Il est aussi question de concevoir des dispositifs d'encadrement et d'incitation des opérateurs économiques à l'investissement. Gertrude Zouta, ministre du Commerce et présidente du comité d'organisation du dit forum.
Comme vous le savez, c'est le secteur privé qui crée les richesses et qui distribue les revenus. L'objectif de la tenue de ce forum est de réunir tous les opérateurs économiques, tant nationaux qu'internationaux, les partenaires techniques et financiers, ainsi que le gouvernement, de manière à ce qu'ensemble nous puissions débattre sur les différents problèmes que rencontre le secteur privé national.
Ouvert ce mercredi 9 septembre, les échanges devront prendre fin le 13 septembre prochain. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
En RDC, plusieurs centaines de cas de violation des droits humains enregistrés dans le pays au mois d'août. C'est ce qu'a révélé hier un rapport de l'ONU sur place. Les explications de José María Aranaz, directeur du bureau conjoint de l'ONU pour les droits de l'homme, au micro de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a enregistré 409 violations des droits de l'homme dans les mois passés, où la majorité violations des droits de l'homme à l'Est. Les provinces plus touchées sont les provinces orientales, Nord Kivu et Sud Kivu. Les agents de l'État seront responsables de la majorité des violations des droits de l'homme, avec 216 violations des droits de l'homme et 330 victimes. Et il faut souligner qu'on a enregistré 20 cas d'exécutions sommaires extrajudiciaires. Les FRDC sera responsable des nombres plus élevés de violations des droits de l'homme, avec 93 violations enregistrées, suivi par la PNC. Il faut aussi souligner qu'on a enregistré 24 violations des droits de l'homme qui ont un impact direct sur la crédibilité du processus électoral à l'avenir.
José María Aranaz, directeur du bureau conjoint de l'ONU pour les droits de l'homme à Kinshasa.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré suit son cours à Dakar, au Sénégal. Après la lecture de l'ordonnance de renvoi hier, le balai des experts et des témoins a enfin commencé. Le compte-rendu de notre correspondante sur place, Sokhna Nata Mbaye.
Il s'agit surtout de définir le contexte historique, mais aussi de cerner la personnalité de l'ancien chef d'État. Celui-ci est présenté par l'historien Arnaud Dingamadji comme un homme brillant, fier et prêt à tout pour le pouvoir. Il est revenu sur la période entre le 7 juin 1982 et le 1er décembre 1990. Pourtant, vers le début des années 80, l'ancien président était apprécié par certaines puissances telles que la France ou les États-Unis. Ces pays ont été à ses côtés dans sa guerre contre le défunt dirigeant libyen Muammar Gaddafi. Washington a financé cette entreprise à hauteur de 12 milliards de francs, soit 25 millions de dollars. Paris, de son côté, a fourni le matériel et le personnel militaire nécessaire. Autre expert convoqué, Yahara Gassamadjoub, de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés. Selon le parquet, la dame a été excusée suite à un empêchement de dernière minute. Concernant les témoignages, ils étaient aussi poignants les uns que les autres. Ousmane Abakar, victime et cultivateur au moment des faits.
Nombre de mes collègues ont été tués ou ont disparu. Beaucoup sont morts en prison suite au mauvais traitement, à la torture. Je rentre maintenant au pays avec l'esprit serein et plein d'espoir que le procès qui vient de commencer aboutira à un verdict juste et équitable.
Après la lecture de l'ordonnance de renvoi, c'est un sentiment de délivrance partielle qui habite les victimes. Clément Abefouta, président de l'association des victimes du régime de Hissène Habré.
Nous avons reconnu dans cette lecture nos noms, ceux de nos frères et sœurs tchadiens, ceux de nos parents. Aujourd'hui, dans le monde entier, nul ne peut ignorer l'étendue des horreurs que le peuple tchadien a subies de 1982 à 90.
Les avocats de la défense continuent de bouder la salle d'audience. Maître Georges-Henri Bautier, de la partie civile, lui, a émis une réserve après la lecture de l'ordonnance de renvoi.
Nous allons soulever la question qui n'a pas été tout à fait toujours reprise par l'ordonnance de renvoi, qu'il était pour nous souvent à la fois l'exécutant direct et à la fois le supérieur hiérarchique. C'est simplement demander qu'on prenne acte de nos réserves, qu'on va plaider, on joue franc jeu.
Le défilé des témoins et des experts se poursuit. Le régime d'Abré a été mis à nu, ainsi que ses méthodes de torture. Lui, par contre, était muet comme une carpe, même quand il a été appelé à la barre, toujours en turbané. Une requête a été adressée à la chambre afin qu'Abré retire son turban. Mais le juge a décidé de ne pas statuer pour l'instant. Sornana Tambay, Dakar, VOA Afrique.
La Russie confirme la présence de ses militaires en Syrie. Les pays occidentaux se disent préoccupés par un plus grand soutien de l'armée russe au régime du président syrien Bachar al-Assad. Michel Joseph.
La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a indiqué mercredi dans une déclaration que des experts militaires russes sont en Syrie pour aider l'armée syrienne à maîtriser l'utilisation des armes russes. Selon Madame Zakharova, ces équipements doivent aider l'armée syrienne à faire face à la menace terroriste qui, a-t-elle dit, a atteint des niveaux sans précédent en Syrie et en Irak. L'agence Reuters, citant des sources libanaises, rapporte de son côté que les forces russes participent à des opérations de soutien aux troupes syriennes, un dossier que le secrétaire d'État américain John Kerry a évoqué mercredi avec son homologue russe Sergei Lavrov, en soulignant que cette situation pourrait mener à une violence accrue, a révélé John Kirby, porte-parole du département d'État.
Et vous terminez toujours ici aux États-Unis. Les villes de Washington, New York et Philadelphie se préparent à recevoir la visite du pape François à la fin septembre. Au micro de Jean-Roger Bion, les temps forts de la tournée papale qui commence ici même à Washington avec le père Jean-Claude Atusamiso, prêtre catholique de l'archidiocèse de la capitale fédérale.
Le grand moment de cette tournée, d'abord lui-même qui arrive le 22, mardi à 16h à la base militaire Andrews, et le jour suivant, le 23, il a un petit déjeuner de réception de bienvenue à la Maison Blanche. Et après ça, il va aller rencontrer les évêques à la conférence épiscopale. Et le grand moment, c'est aussi la canonisation d'un saint américain. Et puis après, encore un grand moment qui sera à New York où il va prier avec la communauté écuménique au World Trade Center et aussi à Philadelphie pour la rencontre des familles.
Le père Jean-Claude Atusamiso, prêtre catholique de l'archidiocèse de Washington. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.